fin de la dissolution de la soupe pour pouvoir récupérer sa gamelle pour le lendemain. Moi, ma gamelle, je ne l'ai jamais lavée. Alors, quand on récupérait la gamelle, évidemment, on léchait bien, bien, bien l'extérieur, ça, avec le doigt, là. Là, on ne peut pas rentrer la tête, mais dans ces grandes gamelles qu'il y a là, on rentrait la tête. Vous voyez ce monsieur, comment il mange, se déporter, comment il mange, là, sa soupe, là. Celui-là et celui-là. Celui-là, ça y est, il a fini de manger sa soupe, celui-là aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ceux qui n'ont pas encore fini. Ceux-là, ils ont loupé quelques soupes. Même beaucoup de soupes, ceux-là, là, ces deux-là, qui sont assis. Voilà comment je mangeais ma soupe. Alors pour garder la nuit pour garder sa gamelle, pour garder sa gamelle la nuit, où est-ce qu'elle était la gamelle? Sous la tête. On se servait de la gamelle comme oreiller. C'était le seul endroit où on ne pouvait pas se la faire coucher la gamelle. Et là, il a la gamelle sous la tête, sous la tête, sous la tête, là aussi. Alors le matin, levé 5 heures, dans tous les camps, c'est à peu près pareil. Hein. Levé 5 heures du matin, il fallait voir ce réveil en fanfare. Hein. On ne mettait pas Radio Mélodie ou Radio Bleu, c'était le... Los Rauten, Rauten, Los, et puis le... la petite Schlagen. Et hop, ça passait dans la chambrée, là. Et allez, pam, 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 là c'est pareil. Alors pour ceux qui étaient là, ceux qui étaient là, ici, ça allait. Mais ceux qui étaient au fond... Et alors ça fait que le soir quand on rentrait, on se bagarrait pour avoir ces places là. On se bagarrait là. De façon que le matin, on puisse vite sortir avant que le coup nous tombe dessus. Parce que là, on dormait par 10, hein, dans ce sens-là. Là, les lits à Flossenbourg, c'était pas pareil. C'était des lits où on dormait à 4, en tête bêche. Là, c'est pareil. Là. Une couverture, on avait une couverture, et si on ne prenait pas garde, si la couverture, on ne se la brisait pas, en pleine nuit, d'un seul coup, la couverture, elle disparaissait, ni vu ni connu, puisqu'il n'y avait pas d'éclairage dans la baraque. Et puis, on restait sans couverture. Il y a aussi qu'avec en Bavière, il fait froid. Alors, 5 heures du matin, alors la distribution de café au lait. La veille, on vous avait fait passer une petite... Il y a une personne qui passait dans la chambrée, la veille, et qui demandait, bon matin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du thé, du chocolat, qu'est-ce que tu prends? Café, nature, du lait, la crème, la carrière, qu'est-ce que tu veux? T'as du biscuit, croissant, pain beurré, et ainsi de suite. Alors tout ça, c'était là-dedans. Régime pour tout le monde, la louche, je ne sais pas quoi, d'herbe, parce qu'il y en a qui attendaient la fin de la distribution du café du matin, enfin café, j'ai dit café, mais de cette boisson chaude, pour récupérer l'herbe qu'il y avait au fond des bouteillons, pour récupérer cette herbe qui avait été servie à faire ce bouillon teinté, il devait y avoir des feuilles de frêne ou de foin, et puis il s'en servait et il trafiquait avec parce qu'ils s'en rendaient tous les faire toucher et puis il tenait ça pour faire du jacouri. C'est rouge ça. Jacouri, c'est pas une époque. Il le fumait pour en faire papier et puis il faisait des gros cigares et puis il fumait parce qu'il y avait des gens qui fumaient. Parce qu'il y en a pas mal qui fument, qui ne sont pas trop du tabac. Vous voyez un peu ce que ça, celui qui était là-bas et qui fumait, et ça me manquait ça. Il n'y avait pas de cigarette, il n'y avait rien. Alors c'était cette herbe qui était dans le bouteillon, qui avait servi à faire ce petit thé là. Et là aussi, ça se bagarrait pour aller ramasser cette herbe dans le bouteillon. Dans la norvégienne, c'était grand bouteillon là. Alors ce petit litre de liquide chaud, que je vous ai remis, si on arrivait promis au bouteillon. Parce que imaginez ceux qui sont là. J'ai regardé à la loupe si je me voyais là, mais je ne me suis pas vu. Je ne me suis pas retrouvé là-dedans. Ceux qui étaient là, quand ils arrivaient là, et en Bavière, croyez-moi, il fait froid l'hiver. Hein. Ben, quand ils arrivaient là, ben, c'était de la glace. La chaleur avait disparu de ces bouteillons. C'est norvégien. C'était des récipients qui étaient destinés à garder la chaleur. De là, on descendait. Enfin, je dis descendait parce que là, moi je logeais à Flossenbourg, je logeais ici, moi. Et ça, c'est des escaliers qui descendent jusqu'en bas à la place d'appel. Ça, c'est la place d'appel. Je descendais. Là, je descendais, mais à Auschwitz, c'était un plat. C'était de niveau. Oui, alors là, le soir, lorsqu'on rentrait, c'était la bousculade. C'était à celui qui rentre le premier pour pouvoir prendre vite la place en bordure, là, pour pouvoir se lever le matin en premier pour éviter les coups. Parce que ceux qui sortaient les derniers de là-bas au fond, c'était la schlag pour faire accélérer les choses. Là, c'était bien. Là, ici, c'était pareil. Il y avait toujours, quand on sortait, là, il y avait une porte. Ici, il y avait une porte où on passait à deux ou trois. Et si on pouvait passer à 10, on passait à 10. Hein. C'était la bousculade. Hein. Même comment ça se fait que l'encadrement de la porte a tenu le coup, parce qu'il fallait voir un peu ça, comment on poussait pour éviter. Et sur les côtés, il y avait le capot avec une planche. Il n'y avait pas la schlag, là. C'était là, il y avait des planches au travers, là, qu'on pouvait enlever facilement. Il sortait le premier lit qui était contre la porte, là, il prenait la planche et puis il tapait pas comme ça avec la planche. Il tapait comme ça, sur le champ. Donc, croyez-moi que quand on passait là, dès qu'on voyait arriver la planche, on se baissait, c'était le copain à côté qui ramassait le coup. C'était vache, mais c'était comme ça. Oui, j'avais pris l'habitude. Hein. J'avais pris le micro, c'est mieux parce qu'on fait porter certains mots, certaines choses. Alors là, appel du matin, on est à l'appel, sur la place d'appel. Il y avait l'appel le matin et le soir. Le matin, l'appel se faisait rapidement, parce qu'il fallait vite aller au boulot. Le soir, l'appel, il prenait tout le temps. Est-ce que vous avez vu, qui c'est qui a vu là-bas chez le prisonnier? Avec Fennel, hein? Vous avez vu quand ils comptent, là, quand ils comptent les prisonniers qui sont là, là, 1, 2, 3, 4, 5, et puis à la fin, ils vont rapporter le chiffre qu'ils ont trouvé à l'adjudant, au chef allemand, et puis il y a deux prisonniers en trop, ou un prisonnier en moins. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut recommencer. Recommencer à compter 50 bonhommes, ça va. Mais recommencer pour compter 5000 bonhommes, c'est plus pareil. Combien de déportés ont perdu leur vie à cause de l'appel? Et puis il fallait tenir à l'appel, il fallait tenir le mort. Le mort, celui qui était par terre, il fallait le prendre, lui passer le bras sous son bras, et puis qu'il soit présent. Il fallait que la tête soit présente. Parce que là, c'était les nazis qui étaient capots. Hein. Ça, c'était le travail des militaires qui comptaient. Ils n'avaient pas confié, ils n'avaient pas encore confiance aux capots pour compter. Et pourtant, s'ils auraient laissé faire les capots, ils avaient de la conscience, ils n'auraient pas triché. Hein. Et alors quand ils comptaient, quand le soldat allemand comptait, il faisait ça, 1, 2, 3, 4, 5, il comptait les têtes. Il ne comptait pas les pieds, il comptait les têtes. Alors c'est pour ça qu'on tenait les morts debout, à côté de nous, et puis il comptait la tête. Et une fois qu'il avait compté la tête, on laissait retomber le camarade par terre. Il disait rien, hein, il s'en foutait. Ça, c'était l'appel du soir. Il y a des chiffres qui ont été donnés, combien il y a eu de morts avec les appels. Parce que croyez-moi que, en plein hiver, il fallait battre la semelle. Battre la semelle de bois. À Auschwitz, on avait des sabots, et dans les autres camps, c'était la claquette. C'était une semelle de bois, et puis il y avait un passant dessus. Un passant de cuir, un passant d'une autre chaussure, parce que les vieilles chaussures, tout était récupéré là-bas. Je vous en parlerai après du Canada. Ce qu'on appelait le Canada, à quoi servait le Canada? Il y en a qui se sont enrichis avec le Canada. Ça a été une mine d'or pour le... Alors le matin, l'appel se faisait vite. On partait à notre travail. Alors à Auschwitz, j'ai toujours fait des fossés. Il ne fallait pas beaucoup de spécialités, il ne fallait pas être qualifié de beaucoup de choses pour faire des fossés. Mais il fallait quand même faire des pentes de droite, des jolies pentes là. Et puis c'était une terre à Auschwitz, une terre qui collait. Alors vous avez la pelle qui vous faisait 500 grammes, mais au bout, quand vous avez servi au bout d'une heure, la pelle elle faisait 2 kilos. Et au bout d'une journée, ça fait beaucoup. J'étais un spécialiste du fossé. Alors à Flossenbürg, dans chaque camp, il y avait ce genre de meubles là. Ça c'est la table, le chevalet à Schlagen. Dans chaque camp. Des différents modèles. Alors là, c'était les punitions. On infligeait des punitions à ceux qui avaient fait des fautes. Deux coups de schlag. Le minimum, c'était 25 coups. Le maximum, c'était 75 coups. Et il fallait compter. Ça, c'est le résultat de la schlag. Vous voyez, la fesse, elle est entamée par le nerf de bœuf. Là. Et là, vous savez qui donnait les coups ? Les capots. C'est messieurs les capots qui donnaient des coups sur les fesses. Alors les jambes, les pieds étaient bridés, ou à l'autre là, on voit qu'il y a des trous, ils passaient les pieds dedans. Et les bras et les épaules étaient tenus par un déporté ou deux déportés, et puis les deux autres, des fois ils étaient à deux pour donner des coups. Et puis au bout d'un moment, ils s'arrêtaient, 8 fils. S'il est incapable de dire comment il avait ramassé des coups, ben ça recommençait. Jusqu'à la perte de connaissance. Enfin, c'était horrible. Et ça se faisait en place publique. Les punitions étaient données pendant l'appel du soir. Pas assez que l'appel nous retardait pour aller chercher notre litre de soupe. On avait la sanction qui était infligée aux déportés et parfois à la pendaison. Cette pendaison-là, c'était la mort au bout d'une heure. Tout ça, ça se faisait après l'appel du soir. L'appel le plus long que j'ai trouvé, c'était 4 heures. 4 heures d'appel. 4 heures à rester debout, à piaffer, à bouger les pieds parce qu'il faisait froid. 4 heures de temps. Parce que ces messieurs se trompaient. On va laisser Flossenbürg de côté. On ne va pas quitter complètement Auschwitz. Auschwitz, ça se trouve là. Flossenbürg, ça se trouve là. J'ai tourné en rond, là, comme ça, moi. J'ai pas quitté la Silésie. Le Struthof, c'est là, hein? Non, Schirmeck, oui. Le Struthof, ça c'est au Struthof, ça. Et est-ce qu'il y en a qui ont été au Struthof? Vendredi, j'avais un élève qui a été au Struthof. C'est le seul camp de concentration qu'il y avait en France. Ça c'est le mémorial du Struthof. Ça, c'est la chambre à gaz du Struthof. Même en France, il y avait une petite chambre à gaz. Ça, c'est le four crématoire du Struthof. Ça, c'est la place d'appel du Struthof, avec les engins de mort, la potence, les wagonnets. Il y avait beaucoup de travail de carrière au Struthof. Et là-bas, c'est les Vosges, là-bas. Tout ça. Si un jour vous passez à Schirmeck, montez, même si vous allez à Strasbourg un jour, montez au Struthof, vous verrez, vous serez édifié de voir qu'en France, il y avait un camp de concentration. En France, où on torturait et où on tuait. Alors, je vous ai dit qu'à Auschwitz, on y allait pour mourir. Alors là, à Auschwitz, ces wagons-là arrivaient là. Là, il y avait toute une voie. Et des trucs comme ça, de ces chambres à gaz, à Auschwitz, il y en avait quatre. Mais tout à fait au fond d'Auschwitz, hein, là-bas au fond. Ça se trouvait là-bas au fond, les quatre chambres à gaz là-bas. Ça, c'est l'arrivée, la descente à la salle de déshabillage, le couloir, la chambre à gaz. Un ascenseur où on montait les cadavres. Et ça, c'est les fours crématoires. Voilà les fours crématoires d'Auschwitz. Il y en avait quatre comme ça. Vous voyez qu'on pouvait en brûler des corps là-dedans. On pouvait mettre deux personnes par creuset. Ils appelaient ça des creusets. Deux personnes à l'intérieur de ça. Ça fonctionnait avec 150 déportés. 150 déportés qui étaient chargés de faire fonctionner ce système. Au bout de 2 mois, les 150 déportés qui ont fait fonctionner ce système sortaient de là et venaient prendre la queue ici. Et ils suivaient le même parcours que leurs camarades qui étaient passés le jour même ou la veille ou le soir. Et 150 de nouveau, tout neuf, prenaient la place de ces 150. Les gens arrivaient, alors là c'était les... Il n'y avait pas de sélection, hein. Lorsqu'on prenait cette voie ici, là, tout droit, il n'y avait pas de sélection. Les gens arrivaient, le convoi arrivait de, disons, 1000 personnes, il y a 1000 personnes qui arrivaient, alors dans ces 1000 personnes, il y avait le papa, la maman, la petite sœur, le pépé, le père, la mère, toute la famille. C'était des convois de... C'est des gens qui arrivaient de Roumanie, de Hongrie, de Pologne, du fin fond de... Du fin fond de l'Allemagne, là, ils arrivaient là par famille. Ils savaient pas. On leur avait dit au départ, vous allez travailler dans une province ailleurs que là où. Beaucoup venaient du ghetto, des ghettos. Vous savez ce que c'est un ghetto? Vous n'avez pas entendu parler du ghetto de Varsovie? Ils n'en parlent pas dans Nuit et Brouillard? Non? Enfin. Le petit garçon là qui est. Qu'ils ont retrouvé d'ailleurs, ce garçon là, ils l'ont retrouvé en Amérique. Qui est toujours vivant. Oui, toujours vivant. Alors on vidait les ghettos, toutes les. Je ne sais pas, tous les mois, on vidait le ghetto de Varsovie, direction Auschwitz. Parce qu'il fallait de la place pour d'autres gens qui venaient de d'autres régions de l'Est pour remplir ce ghetto. Alors les gens arrivaient là. Ça devait être comme nous, ils tombaient des wagons. On leur faisait déposer les bagages, parce qu'ils avaient les bagages là. Hein. Puis ils n'étaient pas à 120 par wagon, là ils avaient la place. On les faisait descendre des wagons. Les préposés, les déportés préposés, ça c'est des petits camps parmi le grand camp. Ces systèmes-là étaient entourés de barbelés électriques, comme le grand camp. C'était des petits camps dans le grand camp. On leur faisait mettre les bagages sur le côté, on leur donnait de la craie pour qu'ils puissent mettre le nom et le prénom et tout, sur tous les renseignements voulus sur les bagages. On leur disait, marquez bien vos bagages de façon à pouvoir récupérer vos bagages après. Il y avait toujours un après, là. Quand on arrivait là, il y avait toujours un après. Ça mettait les gens en confiance. D'ailleurs, si vous allez un jour à Auschwitz, là, ça c'est les musées d'Auschwitz, tout ça. Vous verrez, les musées à Auschwitz, c'est des vitrines qui sont grandes, comme d'ici à l'étagère là-bas, avec des grandes plaques en verre. Derrière ces plaques en verre, vous avez une montagne de valises avec les noms des gens qui ont marqué les noms à la descente du wagon. Une fois les bagages débarrassés, on les faisait rentrer par ce passage-là, comme si on descendait dans un parking, une pente douce, et ils arrivaient dans cette grande salle-là. Alors là, tout autour de cette salle, ça c'est une maquette qui a été reproduite, qui se trouve au musée d'Auschwitz, derrière une grande vitrine. Elle est bien faite d'ailleurs. Là, on leur disait toujours, les Sonderkommando, les gens du Sonderkommando leur disaient, bon, vous avez des porte-manteaux avec des numéros, vous allez vous déshabiller pour aller à la désinfection et à la douche, et vous allez mettre vos habits sur ces porte-manteaux, retenez bien le numéro, de façon qu'après, vous voyez toujours le après, vous allez pouvoir récupérer vos habits, sans problème. Les gens se déshabillaient, là il y avait le papa, la maman, la sœur, la petite copine, et ainsi de suite, tout le monde... des familles entières, voilà. Une fois que tout le monde a été déshabillé, on les faisait rentrer par un sas, ici, et ça, ils venaient dans cette chambre-là. Et ce que vous voyez là, ici, on n'en voit que deux, c'est les trappes à laquelle où le gaz était jeté. Voilà le gaz. Le gaz se trouvait comme ça, là. Des petits granulés, le ziglon, on appelait ça le gaz ziglon. C'était des petits granulés comme ça. Alors un infirmier, on appelait ça l'infirmier désinfecteur, venait, il ouvrait ses boîtes et il les déversait par ces trappons. Hein. Ça, c'est des trappons qui se trouvent au-dessus de la chambre qui existe toujours d'Auschwitz, là. Donc le gaz était déversé là-dedans, le gaz descendait à l'intérieur de cette salle, et la mort faisait son travail en un quart d'heure. En un quart d'heure, les 1000 ou 500, ou enfin les 1000 personnes qui se trouvaient là, étaient asphyxiées. Les gens qui sont là venaient juste de rentrer dans cette chambre à gaz, ici, que le Sonderkommando pénétrer dans cette pièce, récupérer tous les habits, une autre équipe nettoyer le sol, parce que il y a pas mal de saleté qui avait été faite en attendant de passer dans la chambre à gaz, de façon à ce que cette salle soit propre pour recevoir déjà un convoi qui était arrivé et qui venait de s'installer. Les gens arrivaient, tout était propre, tout était nickel, personne ne pouvait s'apercevoir que il y avait des 1000 personnes qui étaient passées avant et qui étaient passées dans la chambre à gaz. De là, une fois que le travail avait été fait, il y avait des hublots, des hublots où on pouvait voir si le travail avait fait son œuvre, si la mort avait fait son œuvre. Les Sonderkommando mettaient les cadavres dans ce monte-charge qu'il a là. Et là, il y avait une équipe de gens, une équipe de Sonderkommando qui coupait les cheveux aux femmes, qui enlevait les bridges, qui enlevait tout ce qui était étranger au corps. Une fois que ce travail était effectué, les cheveux coupés, les bridges enlevés et tout, alors là, l'autre équipe des fours crématoires qui était là, ici, là, ils enfournaient les cadavres à l'intérieur des creusets, à l'intérieur des fours crématoires. Alors là, porte fermée, le nettoyage a été fait, un autre convoi arrivé, prenez la place de ceux-là. Il n'y avait aucune odeur, tout était propre, tout était nettoyé. Et là, c'était pareil, dès que la chambre à gaz était vide, ventilation, on ouvrait ici, et tous ces gens-là passaient par cette porte et venaient dans la chambre à gaz. Et les Allemands qui venaient déverser le gaz zyklon, c'est-à-dire ça, on appelait ça des infirmiers désinfecteurs. Et jusqu'à là, tous ces gens croyaient qu'ils allaient aux douches, qu'ils allaient prendre une douche, et qu'en fait, ils n'allaient pas prendre une douche, ils allaient à la mort. Alors cela n'était pas tatoué, hein. Tous ceux qui allaient directement, qui prenaient cette voie, tous ceux qui prenaient cette voie directement là-bas, on ne les tatouait pas. Ils étaient pris dans le calcul des entrées, dans les calculs pour tenir la comptabilité. C'est macabre de dire qu'on tenait une comptabilité des morts. Étaient envoyés à la chambre à gaz. Alors ici, c'est à... parce qu'il y a Auschwitz-Birkenau. Hein. Auschwitz, Auschwitz, c'est la chambre à gaz d'Auschwitz, qui existe toujours celle-là. Celle-là, on peut rentrer dans la chambre à gaz. Et là, moi, cette année, j'y suis allé et je m'étais juré que j'allais montrer les traces d'ongles sur le mur. Ça fait un bout de temps que ça s'est passé, ça. Depuis 42, il y a toujours les traces d'ongles qui sont là. Je m'étais juré que cette année, j'allais faire le geste sur ce mur. Alors là, les gens arrivaient à la chambre à gaz d'Auschwitz, les gens arrivaient tout nus. Ils quittaient leur baraque et ils arrivaient tout nus à la chambre à gaz. Tandis que là, ils arrivaient habillés, ils déshabillaient là. Alors là aussi, si on rentre dans les détails, il y avait une dizaine de baraques qu'on appelait Canada, où tout ce qui était pris sur les déportés, sur les familles de déportés, les valises, les habits, tout ça, c'était stocké au Canada. Il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient au Canada, où ils triaient la chaussure, ils triaient la veste, ils triaient le pantalon, ils triaient ce qui était bon, ce qui était mauvais, ce qui était à déchirer, ce qui était à foutre en l'air. Et tout était exploité. Les valises, elles étaient ouvertes, ils triaient tout, ils sortaient là des denrées, il y avait des denrées dans les valises, il y avait tas de trucs. Et puis beaucoup de gens avaient caché des bijoux, avaient caché des pièces, avaient caché de l'or dans les doublures des habits. Il y avait une équipe qui était là exprès, qui passait tous les habits au peigne fin de façon à sortir les objets de valeur qui étaient cousus dans les doublures des habits. Il y a eu un trafic monstre qui s'est fait là, un trafic monstre. Voilà comment qu'on allait mourir à Auschwitz. Et là, moi, à Flossenbürg, j'ai fait trois métiers. À Flossenbürg, je faisais des trous dans les rochers, là. Ça, c'est les camarades qui travaillaient là-bas, ils récupéraient les cailloux que moi, je faisais tomber avec la dynamite. C'est pas moi qui mettais la dynamite, c'était un artificier allemand. Et lorsque ce travail se faisait, moi, je faisais les trous, l'artificier allemand venait mettre la dynamite dans les trous, et puis mes camarades, personne n'était averti. Mes camarades qui étaient en bas en train de travailler, le matin quand ils arrivaient là, la première des choses qu'ils faisaient, c'était chercher un abri. Ils repéraient un abri, un endroit où ils pouvaient s'abriter lorsque ça allait sauter. Wagonnet servait un abri, il y a un tas de trucs qui servaient d'abri. Et quand ils me voyaient partir, moi j'étais en haut, je faisais ça pour un litre de soupe supplémentaire. Hein. À cause que c'était pénible comme travail, et puis rien que la vibration du marteau piqueur, là, mon petit déjeuner le matin, il descendait vite sur les talons. Hein. Et quand il me voyait partir avec mon marteau piqueur en haut, c'était une falaise avec des genres de petits chemins, quoi. Ils avaient fait des passages où on pouvait. Alors là, à ce moment-là, ils quittaient le travail, parce que c'était interdit. Hein. C'était interdit de quitter le travail. Mais à ce moment où ça allait sauter, les soldats allemands, les capots, tout ça, c'était les premiers à aller se cacher, à s'abriter. Et une fois que ça avait sauté, tout le monde revenait, ressortait de ce trou. Il y en a qui ne sortaient pas du petit trou. Il y en a même qui n'avaient même pas eu le temps d'aller dans leur petit trou pour se mettre à l'abri des cailloux au moment de l'explosion. Arrive un moment, j'en avais tellement marre de faire ce travail-là que les copains m'ont dit « Viens avec nous à l'usine d'aviation. » Un peu plus loin, un peu plus haut, il y avait l'usine d'aviation. Pas là, mais enfin là. Tout ça se plaçait là-bas, vers le fond. Là. Et là, j'étais à l'usine d'aviation, je mettais des rivets tous les jours. Toute la journée, je mettais des rivets. Ça me changeait du gros marteau piqueur, du gros marteau perforateur. Une riveteuse, comme une grosse chignole. Et là aussi, je me suis, avec l'espoir de pouvoir s'évader, le copain il dit, viens avec nous au commando du bois. J'étais au commando du bois, et puis je ne me suis pas évadé, c'était pas possible. D'abord, il fallait parler l'allemand, et puis c'était pas possible. La façon qu'on était habillé, c'était pas possible de s'évader. Bon. Et alors à Flossenbürg, je sais pas si c'est. Je logeais en haut d'un lit comme ça, mais vers le fond de la baraque. Là. Et là, tous les soirs, il y a des capots qui venaient, qui se réunissent. Eux, ils avaient le droit de circuler à l'intérieur du camp. Ils pouvaient venir de celui qui était à cette baraque-là, pouvait venir ici, celui qui était là pouvait venir. Ils pouvaient circuler. Nous, une fois dans la baraque, on ne pouvait plus sortir de la baraque. Et une nuit, alors quand ils venaient se rejoindre, ils venaient le soir se rejoindre et ils repartaient le matin. Alors croyez-moi que... sous comme des bourriques. Hein. Alors une nuit, je me sentirais, on dormait tout habillé, hein. je me suis jamais déshabillé. Si on se déshabillait, c'était se lever le matin avec la veste en moi ou les pantalons en moi. Donc on dormait tout habillé. Et une nuit, je me sentirais par la veste.